Bonjour à tous. Alors cette prédication se veut être à la fois un enseignement et aussi un témoignage sur deux textes que le Seigneur a mis sur mon cœur et celui de ma femme, par voie de conséquence. Je vais vous partager sur le thème de Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Chaque hiver, il y a des graines, des semences qui ont été cachées dans la terre. On ne les voit pas. Et chaque printemps, c'est l'émerveillement pour nos yeux de voir que Dieu est le Dieu de la vie et de ce qui semble mort jaillit la vie. Et Dieu est un Dieu vivant, comme c'était dit dans plusieurs prières. Et on le voit déjà, cette marque, dans la nature, n'est-ce pas? J'avais un PowerPoint, malheureusement, j'ai eu un souci avec ma clé. Et voilà, donc vous ferez fonctionner l'imagination. Et voilà. Donc, le texte sur lequel j'aimerais partager, c'est un texte qui m'a été donné en automne 2017, le lundi 23 octobre. Et c'est le texte de Josué 21. Josué 21, versets 43 à 45, pour ceux qui ont une Bible. C'est donc après le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible. Et c'était lors de la conquête du peuple, du territoire de Canaan que Dieu avait donné à Israël. On est donc au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est la première phase de conquête du pays qui s'achève et Josué rassemble le peuple pour faire le bilan. Alors je lis. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Alors c'est un constat encourageant. Ce que Dieu a ordonné au peuple, et qui a obéi dans l'essentiel, eh bien, il le voit s'accomplir. Et c'est André Adoul, dans son commentaire de Josué, qui dit que ce livre de Josué montre Israël sous son jour le plus favorable, parce qu'il apparaît comme un peuple soumis, fidèle à l'Éternel. Hélas, on connaît la suite. Après le livre de Josué, il y a celui des juges, où c'est la dégringolade progressive et l'infidélité au Seigneur et le jugement. Donc, il y a un grand contraste, bien sûr, entre ces textes et le livre des juges. Donc, alors que, comme chaque année, je participe avec des frères et sœurs, une petite équipe, à la distribution des calendriers bibliques en Haute-Loisère. Donc la Loisère, si jamais, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a bien des Français qui ne connaissent même pas où c'est, parce que c'est un département pas très peuplé, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui ignoraient même où c'était. Donc c'est à 140 km au sud de Clermont-Ferrand, et à 85 km du Puy-en-Velay, un pays traditionnellement bien catholique. La réforme protestante est allée jusqu'on va dire au milieu de ce département, mais après ça a été difficile. Et donc c'est un pays qui a besoin de la parole de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on était appelé il y a 35 ans en arrière, mon épouse et moi, à quitter la Suisse et à partir dans ce pays où nous sommes restés 17 ans. Maintenant, ça fait un peu plus de 15 ans que nous sommes parmi vous. Et voilà, et le Seigneur, à travers ce texte, que j'ai lu le premier jour de cette distribution des calendriers. C'était peu après le décès du seul ancien qui était resté dans cette église. Et ça a été pour moi aussi un écho, pour un appel, une invitation à me lever et à repartir là-bas, vu qu'il n'y a plus d'hommes dans cette petite assemblée. Donc, dans ce texte, nous voyons plusieurs expressions qui reviennent. Promis, juré, c'est Dieu qui promet. Trois fois, cette expression revient. Et nous pensons évidemment à Abraham, les patriarches, à Moïse, qui ont reçu des promesses de Dieu, en dépit des circonstances qui étaient défavorables. Ensuite, il y a trois fois le mot « donner », qui nous rappelle la générosité gratuite de Dieu, du Dieu de grâce qui traverse, on va dire, toute la Bible, n'est-ce pas? Et puis, il y a quatre fois l'expression « tout », T-O-U-T, tout, du repos tout alentour. Dieu a donné tout le pays, il a donné la victoire sur tous les ennemis, et toutes les bonnes paroles se sont accomplies. Quatre fois tout. Et on retrouve ces quatre fois tout dans le grand appel, la grande mission que Jésus a confiée à ses disciples, qui nous a été lue par Anaël en introduction. On ne s'était pas concerté, mais vous voyez, le Seigneur a bien fait les choses ce matin. Jésus ressuscité envoie ses apôtres, et au-delà des apôtres, chacun de nous qui croyons, il nous envoie vers les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Quel programme! C'est le roi, il établit son royaume. Il était couronné de gloire et d'honneur à la droite de son Père, nous dit la lettre aux Hébreux. Alors, on va prendre les quatre tout. Le premier, l'Éternel leur donna tout le pays. Oui, il a donné tout le pays, mais ils ont dû le conquérir. Ça ne s'est pas fait tout seul. Dieu aime donner, a dit quelqu'un, mais nous sommes l'un à recevoir, parce que l'un à croire, et encore plus l'un parfois à obéir. N'est-il pas vrai? Donc les Israélites ont bien commencé la conquête du pays, mais ils n'ont pas terminé. Il y a eu des négligences. Et dans les juges, on voit les sept tribus qui ne dépossèdent pas les Cananéens, avec des conséquences désastreuses, parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de ce que Dieu leur demandait. C'est aussi pour nous un avertissement, bien sûr, à obéir, à apprendre à obéir, de telle sorte qu'ils ont été livrés à leurs ennemis, et ils ont beaucoup souffert. Alors je fais une relation, quel est le pays que Dieu nous donne, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance? Eh bien, je lis dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12, « À ses disciples qui étaient troublés, Jésus leur dit, ils étaient troublés, pourquoi? Parce que tout d'un coup, ils commençaient à comprendre que les choses allaient se passer mal, très mal, puisque Jésus marchait sur le chemin de la croix. Tout d'un coup, ils commençaient un petit peu à comprendre que ça allait craindre, comme on dit dans le langage actuel. Et c'était après la deuxième fois que Jésus parlait de ses souffrances à la croix. Alors finalement, il y avait quand même quelque chose qui entrait, même s'ils n'avaient pas tout compris. Et Jésus leur dit, dans Luc 12, 32, « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Voilà le pays que Dieu nous donne, le royaume. Le royaume des cieux ne consiste pas, nous dit Paul aussi au Romains 14, verset 17, ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est un royaume invisible qui vient de notre cœur lorsque nous acceptons que Jésus vienne y faire sa demeure, lorsque nous acceptons d'être pardonnés et purifiés de nos péchés. Donc, nous sommes aussi, frères et sœurs, appelés à cette communication de la bonne nouvelle, ce message, ce trésor extraordinaire de l'Évangile, jusqu'à toutes les nations, mais ça commence déjà dans nos propres familles. Si nous sommes parents, ça commence par nos enfants. Ça commence peut-être par nos collègues de travail. Sans se dire, « Ouh là là, mais les extrémités de la terre, c'est très loin, je ne vais jamais y arriver. » Il faut commencer par le début, n'est-ce pas? Donc, voilà ce royaume dans lequel nous sommes appelés. Faites de toutes les nations des disciples, a dit Jésus. C'est le premier tout aussi que je relève dans Matthieu 28. Et bien sûr, n'oublions pas ceux qui sont partis aux extrémités de la terre, dans nos prières, dans nos offrandes. Ensuite, le deuxième tout, c'est « Il leur donna du repos tout alentour ». C'est le deuxième tout qu'on voit dans ce verset 44 de Josué 21. Alors ce repos face à leurs ennemis, eh bien, on le voit aussi dans la lettre aux Hébreux, où il nous est dit quel genre de repos Dieu donne et à qui. Hébreux, chapitre 4. « Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien parce que ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Voilà donc cet appel encore qui existe aujourd'hui, c'est d'entrer dans le repos de la foi. C'est-à-dire, je ne cherche plus à me justifier moi-même, comme l'a rappelé Patrice, mais c'est Christ qui est ma justice. C'est ça le repos. C'est accepter que c'est lui qui a fait le travail et à moi de faire confiance à la perfection de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Qu'on lui fasse vraiment confiance. C'est ça ce repos. Et on expérimente la réconciliation avec Dieu, Romains chapitre 5, où il nous est dit au verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est la paix avec Dieu, d'abord. Ensuite, il y a la paix de Dieu qui vient à la suite de la paix avec Dieu. Et la paix de Dieu, elle est dans, il nous en est parlé dans Philippiens chapitre 4, tout un enseignement de Paul sur la prière. Quand on prie, eh bien, on cultive, on entretient cette paix que Dieu nous a déjà donnée dans sa justice. On vide cette paix dans notre quotidien. Et n'est-il pas vrai que vous et moi, on en a bien besoin de cette paix dans ce que nous vivons? Parce qu'il y a tous les événements extérieurs qui peuvent nous troubler, toute l'agitation qu'on voit dans la société, ne serait-ce que déjà dans notre propre pays, sans parler des autres. Et puis, nos propres soucis personnels, on a besoin d'être renouvelé dans la paix de Dieu. Alors, c'est là qu'on a cette promesse aussi de Matthieu 28, au verset 20, qui nous a été lu en introduction. « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Il est présent, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est encore lui qui va nous donner cette paix. Ensuite, la troisième, tout, « L'Éternel leur livra tous leurs ennemis. » Verset 44. Alors, pour les Israélites, leurs ennemis, c'était essentiellement les peuplades cananéennes, idolâtres, qui étaient dans le pays dont l'Éternel avait demandé qu'il les voue à l'interdit, c'est-à-dire qu'il les détruise entièrement à cause de leur culte idolâtre. Et dès le début, on voit Israël qui, par la prise de Jéricho, voit une victoire du Seigneur extraordinaire, surnaturelle, énorme. On en parle encore beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est quelque chose complètement unique dans l'histoire du monde, la prise de cette ville en ayant tourné pendant 7 jours autour. Et donc, ils ont vu que l'Éternel combattait lui-même, qui marchait devant eux. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ce qui s'est passé pour Israël? eh bien, qu'il faut aussi savoir identifier nos ennemis. Si on veut les combattre et voir qu'ils soient, enfin, laisser Dieu les combattre à travers nous, il faut les identifier, ces ennemis. Et le pire ennemi, des fois, souvent, on dit, ouais, ben, c'est le diable. Mais le pire ennemi, c'est moi-même, souvent, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Vous tous qui connaissez le Seigneur, qui connaissons le Seigneur, on le réalise bien que, rapidement, que la première lutte, elle se passe dans notre cœur. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, il parle de ce combat en disant, « Je trouve donc cette loi en moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et après la réponse, « Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Il n'y a que lui. De se jeter dans ses bras et de se confier en lui, de s'identifier à lui. Lorsque nous avons été baptisés, c'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas? On s'est identifié à la mort de Jésus. Et c'est cela le baptême de l'Esprit, baptisé par un seul Esprit pour être uni à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection, et aussi uni les uns aux autres. Et ça, c'est aussi extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, victoire sur notre meilleur ennemi, notre ancienne nature, qui était crucifié avec lui. Ensuite, Jésus aussi promet à ses disciples qu'il a vaincu le monde. « Vous aurez des épreuves dans le monde, nous dit-il. Le monde va vous haïr. » Évangile de Jean au chapitre 15 et au chapitre 16, verset 33. Mais Jésus leur dit « Prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. » Si quelqu'un se sent écrasé ou étouffé, qu'il saisisse cette promesse de Dieu. Il a vaincu le monde. Moi, je ne peux pas le vaincre. Il va me dominer, le monde. Mais si je laisse Jésus-Christ en moi établir son règne, sa victoire, il va me donner la force, comme ça a été dit ce matin, par son Saint-Esprit. Et puis, il y a encore, bien sûr, dans Éphésiens 6, nous voyons Paul qui démasque aussi ses ennemis, qui les nomme. Dans Éphésiens chapitre 6, nous avons cet enseignement au verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et ces armes, cette panoplie, elle nous est décrite après. Je n'en ai pas le temps ici maintenant de les décrire, mais vous pouvez les relire à la maison. Et c'est vraiment important de prendre au sérieux chacune de ces armes dans le combat spirituel dans lequel nous entrons lorsque nous naissons de nouveau, on entre dans un combat spirituel, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, nous n'avons pas à l'ignorer, puisque ça nous est expliqué ici. Et Dieu soit loué, l'ennemi a été vaincu, n'est-ce pas? Jésus dit dans l'évangile de Luc au chapitre 10 aussi qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il a vaincu le diable à la croix, et Patrice, dans son introduction, a lu ce texte que je voulais vous lire. Et donc, merci Patrice, c'est à la croix que les pouvoirs, les dominations angéliques mauvaises au service du diable ont été livrées en spectacle, et il a triomphé d'eux par la croix. Et lorsque nous nous sentons oppressés, nous pouvons relire ces textes et dire « C'est le Seigneur qui a raison. » Ce n'est pas l'adversité, ce n'est pas le découragement, l'accusation du diable qui doit primer, c'est la victoire de la croix qu'on rappelle chaque dimanche par le pain et le vin, n'est-ce pas? Donc, Jésus ressuscité a rappelé à ses disciples, et c'est le troisième tout qu'on a dans Matthieu 28, il a reçu tout pouvoir, toute autorité dans l'univers, et bien sûr, contre les puissances angéliques aussi. Ensuite, le quatrième et le dernier tout qu'on a dans Josué, c'est « Toutes les bonnes paroles s'accomplissent », verset 45. Nous pouvons parfois être déçus par les hommes. Quand j'étais enfant, à l'âge de 10 ans environ, nous habitions dans un HLM, dans la banlieue lausannoise, en Suisse, et avec ma sœur, on était là, donc, dans cet immeuble, et on était une des rares familles qui n'avait pas encore de voiture. C'était donc dans les années 60, pour vous situer dans le temps. On était toujours un petit peu envieux des autres, et on se disait, quand c'est qu'on aura une voiture? Et notre papa n'avait encore pas de permis. Un jour, il nous dit, bien, vous irez sur le balcon et vous verrez une Volkswagen, une VV, comme on dit en Suisse, coccinelle sur le balcon, depuis le balcon. Vous verrez dans la cour. Alors, on se réjouissait, on attendait ce jour-là. Et un jour, il ouvre la fenêtre, il nous dit, allez, vous allez voir la voiture, notre nouvelle voiture. Et on a vu une petite miniature, comme ça. Vous imaginez ce qui s'est passé dans notre cœur. Ma sœur, qui était plus jeune, elle a piqué une crise un peu. Et puis, on a pardonné à notre papa. Mais c'était un peu puéril, comme, on va dire, comme... Il ne nous a pas fait secours, rassurez-vous, le reste de notre vie, heureusement. J'ai eu un bon père. Mais je raconte cette histoire pour dire comment des fois les hommes peuvent nous décevoir, ne tiennent pas promesses. Et même nous-mêmes, on n'a pas toujours tenu toutes nos promesses, si on est honnête. Peut-être que... voilà. Alors, Dieu n'est pas comme ça, heureusement. Et dans Nombres, chapitre 23... On voit cette histoire de Balaam et de Balak, quand le peuple était dans le désert et qu'il y avait un roi qui voulait que un devin, un prophète, maudisse le peuple d'Israël. Eh bien, Balaam, malgré que c'était un mauvais prophète, il a quand même prononcé des paroles inspirées, qui sont écrites dans la Bible et qui sont extraordinaires. Et voilà ce qu'il dit. « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. » Donc, il prophétise à ce roi et il lui dit, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas ?» Sous-entendu, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ce peuple a été béni et Dieu l'a béni et il ne le révoquera pas, en dépit de ses failles, de ses défauts. Donc, Dieu tient promesse, Dieu tient parole. Comme les bonnes paroles s'accomplissent, hélas, aussi les menaces que Dieu a prononcées sur ce peuple se sont accomplies. Et nous les voyons par les exils successifs d'Israël, des Israélites, le royaume du Nord en 721 avant Jésus-Christ, en Assyrie, déporté en Assyrie, en moins 586 avant Jésus-Christ à Babylone, et la destruction du temple, et ensuite la deuxième destruction du temple en 70. Donc les menaces de Dieu, tout comme les bonnes paroles, se sont accomplies. Ça nous montre aussi que Dieu est saint, Dieu est juste, et on va dire, on ne fait pas ce qu'on veut, et il faut voir donc les deux aspects du caractère de Dieu, n'est-ce pas? Et il est à craindre, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à le respecter, à croire toute sa parole. Alors, Lorsque j'étais encore en Suisse, dans les années 84, c'était au début de notre, où je travaillais encore à la poste comme facteur, et c'était au début de notre, on va dire, de notre appel pour la Lozère, où il y avait déjà des gens qui nous avaient encouragés d'aller en Lozère prendre la suite d'un ministère de deux serviteurs de Dieu qui étaient venus successivement pour annoncer la bonne nouvelle et bien sûr rassembler un petit troupeau autour du Seigneur en église, en assemblée. Et donc, il y avait un responsable de la mission qui venait chez nous, et le jour où il venait, j'avais toujours encore une crainte et un doute en me disant, tout le monde nous voit là-bas, tout le monde nous dit que c'est bien qu'on aille là-bas, mais moi j'attendais du Seigneur une conviction complète et totale, et je ne voulais pas me baser sur mon attirance personnelle en me disant, oui, c'est vrai, c'est sympa et tout, d'aller là-bas et tout, mais il me fallait quelque chose de plus, il me fallait une parole du Seigneur. Et c'est assez curieux, c'est que je me rappellerai toute ma vie, parce que c'était en me brossant les dents avant de partir au boulot, que tout d'un coup, il y a ce verset que je vais vous lire, qui m'a traversé l'esprit, mais d'une façon claire et nette. Et c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 20, que je vous lis. C'est Paul qui parle de son ministère. Il dit « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par vous, par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. » Alors moi, c'était surtout ce dernier verset. « Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en Christ. » Et c'était pour moi comme s'il y avait un voile qui se déchirait dans mon cœur. Et je me suis dit, oui, tu peux dire oui à ses frères et à ce projet de mission, parce que Dieu a déjà donné son oui en Christ, Jésus, qui a accompli pour toi ce que toi, tu ne peux pas faire. Il te permet de voir ce que tu ne vois pas, et de nous engager par la foi. Et ça a été pour nous, vraiment, c'était en 84. Après, il y a eu des longs mois encore pour que ça aboutisse, et même 2 ans jusqu'à ce qu'on s'installe là-bas. Alors, nous avons vu vraiment la main du Seigneur à travers ces 17 années, et on a vu que Dieu est fidèle. Et si c'est à travers la fidélité de Dieu que nous devenons fidèles, ça ne veut pas dire qu'on est toujours au top, loin de là. On a fait des erreurs et on en fera encore. Mais il y a la grâce de Dieu qui est là. Et dans notre faiblesse, eh bien, le Seigneur, l'essentiel, c'est de le laisser agir et nous corriger, nous instruire. Alors, il y a cet ordre de mission, c'est le quatrième tout, où Jésus dit à ses disciples, « Enseignez-leur à garder, à obéir tout ce que je vous ai prescrit. » C'est quand on lit ça, quand on réfléchit à ce que ça veut dire, tout ce que Jésus nous a prescrit, prenons le serment sur la montagne déjà, et tout le reste, il y a de quoi faire. Enseignez-leur à le garder. Et avant d'enseigner les autres, il faut s'enseigner soi-même, il faut nous exercer à garder. C'est notre vie chrétienne quotidienne, n'est-ce pas, de chaque jour. Est-ce que je garde tout ce que Jésus nous a prescrit? J'arrive à la conclusion. Dieu tient toujours ses promesses. Malgré l'infidélité des hommes, malgré mes doutes ou mes craintes, Dieu tiendra ses promesses. J'espère que chacun de nous, on en a au moins une, qu'on garde dans notre cœur ou qu'on a écrite quelque part. Et la promesse, la première, bien sûr, c'est la promesse de la vie éternelle. 1 Jean 2, verset 25, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il n'y a rien de plus. Que donner de plus? Qu'est-ce que Dieu peut-il donner de plus que la vie éternelle? Je vous le demande. Je me le demande. Rien. Il y a tout là-dedans. Alors, tout s'est accompli. Autrefois, pour les Israélites, promesse de bénédiction, promesse de malédiction, quand ils se sont éloignés, promesse du retour lors du XXe siècle. Nous avons vu de plus en plus de Juifs rentrer dans leur pays. Et quoi qu'en disent les médias, où ça dérange, ce peuple, Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit. Et il y a plein de textes dans l'Ancien Testament, des promesses des prophètes, qui nous parlent aussi du retour d'Israël dans leur pays. Ils sont encore dans l'incrédulité, mais nous sommes appelés à prier pour que Dieu déchire le voile, et un jour ils vont se repentir et pleurer sur ce Fils unique, comme il est écrit dans Zacharie, au chapitre 12. Donc Dieu ne se repent pas, ne change pas envers ses dons et son appel. Cela vaut pour Israël, cela vaut pour l'Église de Jésus-Christ, et cela vaut pour moi aussi. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Alors, réjouissons-nous, frères et sœurs, parce que enfin, nous partons aussi, en ce qui nous concerne, confiants, parce que si on regardait à nous, bien sûr, on ne ferait rien, on ne bougerait pas, on resterait dans les pantoufles. Surtout à l'âge de la retraite, on a envie un peu de décrocher, de vivre plus paisiblement, parce que nos forces diminuent. Mais bon, le Seigneur est là, et voilà, Dieu est fidèle. Et nous avons tout pleinement en lui, comme l'a rappelé au Coronou de Patrice, lui le chef de toute domination, de toute autorité. Amen.